Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bienvenue pour une nouvelle émission de Conflit, ravi de vous retrouver, merci de votre fidélité. Vous pouvez retrouver Conflit en kiosque avec le numéro du mois de mars qui est consacré à la géopolitique de la peur, un sujet qui nous permet d'évoquer des questions de philosophie politique, des questions également de géographie et que vous pouvez retrouver en kiosque et sur notre site internet. Et cette semaine, nous allons partir au XXe siècle pour évoquer les parachutistes en Algérie. Avec Marie-Danielle Demelas, que vous avez pu lire déjà dans Conflit, notamment dans des articles consacrés à l'Amérique latine, puisque Marie-Danielle Demelas est docteur d'État en histoire. Elle a travaillé essentiellement sur l'histoire politique et militaire de l'Amérique latine et de l'Espagne, mais aussi sur des aspects de l'histoire militaire française, notamment avec un ouvrage qui était consacré aux parachutistes en Indochine, qui est paru chez Vendémiaire en 2016. Et un petit peu dans la continuité, mais comme on le verra, pas complètement malgré tout dans la continuité, un ouvrage qui paraît chez Vendémiaire toujours, Parachutistes en Algérie, 1954-1958. Le premier tome vient de paraître et le deuxième tome est en cours d'écriture. Bonjour Marie-Danielle Demelas, merci d'avoir accepté l'invitation de Conflit. Alors, je commençais dans la présentation en évoquant effectivement l'ouvrage que vous avez consacré aux parachutistes en Indochine et maintenant les parachutistes en Algérie. Il y a une idée commune, et je veux dire que c'était aussi la mienne avant de lire votre ouvrage, qui est que les paras d'Algérie, c'est la suite des paras indochinois. Finalement, ce sont les mêmes qui ont fait la guerre d'Indochine et qui après se sont retrouvés en Algérie avec peut-être les mêmes méthodes militaires, avec la volonté aussi de prendre une revanche sur la défaite de Dien Bien Phu. Et ce que vous montrez dans votre ouvrage, c'est que la chose est beaucoup plus complexe, que les paras d'Algérie sont assez différents des paras indochinois et que la filiation entre les deux est très loin d'être évidente, voire même elle est très peu existante.
Bonjour Jean-Baptiste. Oui, en effet, j'étais comme vous quand je suis partie dans cette aventure, voici quelques années, persuadée qu'il y a d'un continuum. Et de toute façon, dans mon idée, j'écris une histoire des parachutistes de 1945 à 1962. C'est un tout. Mais j'ai été trompée, comme beaucoup, par un point de vue qui a été celui diffusé notamment par le livre « Les centurions » de Lartégui, qui a eu un succès triomphal, mais qui décrit en réalité, quand on connaît les dessous de l'écriture de ce roman, il ne décrit qu'un tout petit groupe qui effectivement a connu l'Indochine, qui parfois avant l'Indochine avait connu la Deuxième Guerre mondiale et plusieurs épisodes de guerre, de commando de la Deuxième Guerre mondiale, et qui se sont retrouvés en Algérie, qui étaient un groupe de copains, qui avaient partagé ensemble les mêmes épreuves, etc. Mais tout ça, c'est une minorité. Ce qui m'a paru très important et qui m'a beaucoup surprise, quand j'ai attaqué ce massif algérien, c'est l'importance des engagés. L'armée de la guerre d'Algérie est une armée majoritairement, numériquement, d'engagés. Elle est encadrée par des officiers d'active, par une bonne partie de sous-officiers d'active également, mais chez les parachutistes, la troupe, ce sont des engagés, à l'exception des deux régiments de légionnaires, du 3e RPC, RPIMA, qui a toujours quand même été composé d'au moins 30 à 40% d'engagés. On n'arrivait jamais au chiffre réel d'engagés, donc on compensait. Et il y avait deux autres régiments coloniaux, le 6e et le 8e, qui comportaient également un tiers à 40%, cette fois d'engagés africains, qui vont quitter l'armée française lors de l'indépendance des pays africains entre 1959 et 1960. Le reste, ce sont des engagés.
Qu'est-ce qu'on appelle exactement des engagés? Ce sont des gens qui font le service militaire?
Un engagé, oui. Un engagé, c'est quelqu'un qui est un professionnel. Un appelé fait son service militaire. Un engagé veut être militaire de carrière, on dira, et s'engage soit pour un contrat de 3 ans, de 5 ans, soit essaye de faire une carrière entière dans l'armée, comme sous-officier ou comme officier.
Alors, commençons par le début, parce qu'en histoire, il faut toujours commencer par les débuts, si je puis dire, l'origine des parachutistes. Parce que ça ne va pas de soi qu'il y ait une unité spécifiquement composée de parachutistes. Et d'ailleurs, on peut se demander de se poser la question de savoir ce que sont des parachutistes. Est-ce que c'est uniquement quelqu'un qui saute en parachute ou quelle est son utilité stratégique? Quand est-ce qu'ont été créés ces parachutistes et comment est-ce que l'armée française intégrés, comment est-ce qu'on les conçoit également? Quel est leur rôle dans l'armée? Est-ce qu'il y a des unités spécifiques de parachutistes ou est-ce que ce sont des spécialités au sein d'autres unités?
L'histoire des parachutistes, on l'a fait toujours remonter à la période de l'avant-guerre, 1937. Deux compagnies sont créées qui, en réalité, ne serviront absolument pas pendant la guerre. Il y a ensuite une double filiation des parachutistes, une filiation anglaise, les SAS, et une filiation de création en Afrique du Nord, en Algérie, sous l'influence nord-américaine mais également formation britannique, et qui devait former des troupes de choc. À partir de 1944, ces deux types de troupes vont intervenir dans la libération de la France, puis ensuite au-delà. Certaines vont être parachutées, notamment les unités SAS. D'autres, comme les parachutistes de choc, les bataillons de choc, ne vont jamais être parachutés ou quasiment jamais. Ils vont intervenir comme fantassins. Et le problème à la libération, c'est qu'ils ils se sont admirablement comportés. Les parachutistes bénéficient d'un prestige énorme partout. Seulement, on en veut pour remonter le niveau de l'armée. Je dirais, après la pâtée de 1940, il faut quand même montrer que l'armée française est quand même capable de redevenir une des premières armées. Mais on ne sait pas quoi en faire. Et l'exemple de l'Indochine le montre très bien. Alors, pour répondre à votre question au plan de structure, il y a des unités parachutistes, mais le parachutisme n'est pas une arme. C'est une spécialité. C'est-à-dire qu'on peut être parachutiste en étant cavalier, artilleur, dans les transmissions, le génie. On peut être légionnaire, on peut être chasseur, métro. On peut être également appartenir aux troupes coloniales. Vous voyez, il y a une multitude. Et alors, le mystère et l'efficacité du parachutisme vient du fait que ces multiples identités sont capables de se rassembler en une seule, qui est celle du parachutisme. Et le rite, je appellerais ça un rite d'initiation, le rite d'initiation de passer la portière, de sauter en marche, comme on dit, c'est ce qui va lier entre les paras. En outre, il y a cette histoire qui s'est forgée à partir des années 40, qui repose sur des marques très, très réduites de hiérarchie. L'officier, il a quelques galons sur sa tenue bariolée, mais il ressemble tout à fait à un homme de troupe. Et il passe la portière comme eux, il se bat comme eux, au milieu d'eux. Et la solidarité également, fait qu'un para, pour pouvoir se dépasser, doit être absolument sûr de ses camarades. Et tout ça crée un esprit de corps qu'on a essayé de mettre à profit.
Mais, donc, c'est une sorte d'aristocratie militaire, mais à l'intérieur duquel il y a peu de différence, un peu de rapport de grade, finalement, une grande égalité.
Je n'aime pas beaucoup le terme aristocratie. C'est vrai que quand on veut créer un esprit de corps, faut être persuadé qu'on est les meilleurs. Bon, mais aristocratie implique une origine sociale souvent à part. Or, j'insiste, et notamment on le voit plus que jamais pendant la guerre d'Algérie, les paras sont originaires des couches sociales françaises les plus modestes. Ce sont des ouvriers, ce sont des paysans. On compte très peu de cadres de la société française et d'intellectuels parmi les parachutistes. Et quand il y en a, on ne parle que d'eux parce qu'ils sont très peu nombreux.
Alors, revenons maintenant sur l'usage de ces paras en Algérie. Finalement, à quoi ça sert un para? Alors, votre ouvrage est illustré d'une photo où on voit des sauts de parachute, donc il y a un avion et puis des paras qui ont sauté. Mais une fois que ceux-ci sautent et qu'ils sont largués, que font-ils quand ils ont atterri? Est-ce que ce sont pour des missions de raid, une sorte de mission coup de poing pour combattre un adversaire en le prenant par l'arrière? On reparlera également de la bataille d'Alger, et puis vous évoquez aussi la bataille de Suez, où là on a des combats de parachutistes en ville, enfin notamment à Alger, donc des paras qui sont sur plusieurs terrains. Mais comment est-ce qu'on conçoit l'usage de ces paras pendant la guerre d'Algérie? Et est-ce qu'il y a eu une évolution entre le début et la fin de la guerre quant à l'usage stratégique de ces hommes?
Bon, dans le cadre d'une émission brève comme la nôtre, on ne peut pas rentrer dans trop de détails.
Voilà, dans les grandes lignes.
Voilà, je vais être caricaturale. J'insiste sur l'idée que pour le haut commandement, les parachutistes, c'est une élite. Et on a les légionnaires, les parachutistes, c'est une élite. Mais c'est une élite dont on ne sait pas trop que faire, parce que l'idée du parachutiste qui saute sur les arrières de l'ennemi en masse et qui va gagner, les Allemands comme les Russes, qui ont beaucoup pratiqué cela, se sont rapidement rendus compte que ça ne marchait pas. On obtient des pertes considérables. Le parachutiste est un soldat léger. Il n'est pas lourdement armé. Par conséquent, il faut qu'il agisse vite, par surprise, et qu'il soit capable de s'imposer immédiatement. Il lui est très difficile de durer, il peut le faire, mais il subit des pertes considérables. On en a un exemple, c'est Dien Bien Phu, qui était une aberration. Or, que ce soit en Algérie, que ce soit en Indochine, les paras, à nouveau, ont été mis à toutes les sauces. C'est-à-dire, quand il y a un problème, on les appelle. Le début de la guerre d'Algérie, j'ai insisté dans le premier chapitre sur cet aspect très peu connu des bataillons blizzards. Les bataillons blizzards, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui guépards, c'est-à-dire des forces, parfois des bataillons de marche, qui sont créés à l'improviste pour faire face à une situation de crise inattendue. Et en novembre 44, ce sont les blizzards qui sont, pour la plupart des appelés, c'est-à-dire notamment ce pauvre 18e RCP qui n'a pas mérité son sort, qui se retrouve face à une situation à laquelle il n'a été absolument pas formé, qui va quand même y faire face, se sentirait pas mal sous, il est vrai, le commandement du colonel Ducourneau, qui était un vieux de la vieille. Mais j'insiste, si on a des épisodes aussi curieux que les blizzards, travaille dans les djebels, dans les villes, la bataille d'Alger, que j'appelle plutôt la bataille pour Alger, nous y reviendrons peut-être, ou Bizerte, c'est qu'on ne sait pas trop que faire. Il n'existe pas en Algérie ni en Indochine une doctrine unique d'emploi des parachutistes. Donc quand il y a un problème, on les appelle. Voilà.
C'est une sorte de plombier, finalement, les plombiers qui essayent de réparer. Alors justement, abordons la bataille d'Alger, même si vous avez dit que ce n'était pas le bon terme. On retient de cette bataille le général Massu, qui est quand même la figure un petit peu de ses parrains, et puis il a eu aussi un rôle politique par la suite. Il y a beaucoup d'ambiguïté sur cette bataille d'Alger, parce que quel est l'objectif final recherché? Est-ce que c'est faire du maintien de l'ordre? C'est de lutter contre des terroristes? C'est de tenir un terrain? En plus, on est en ville, c'est toujours très compliqué, la guerre urbaine. Quel est finalement l'objectif et pourquoi est-ce qu'on fait appel aux paras pour atteindre cet objectif?
Alors, je reviens quand même sur les termes. J'ai préféré employer le terme « bataille pour Alger » que « bataille d'Alger », parce que il est là, on voit déjà dès la dénomination l'emploi idéologique fait du terme. bataille de Stalingrad, bataille que je connais mieux de Madrid, ça, on comprend. C'est-à-dire qu'on a des chars, on a de l'aviation, on a une très forte mortalité, on a vraiment une bataille, on a vraiment des combats. Dans le cas d'Alger, c'est la bataille pour savoir qui va être maître d'Alger. Donc, c'est la bataille pour Alger.
Et pas de chars, pas d'aviation.
Absolument.
Contrairement, voilà.
En revanche, il y en aura à la fin de la guerre, mais cette fois contre la minorité européenne. Le siège pendant une semaine de Bab el Oued, où là, il y aura l'aviation et il y aura les chars. Mais je vous réserve ça pour le deuxième tome.
Voilà. Donc, il s'agit là de faire une action de police, d'arrêter les terroristes, de faire du renseignement, de tenir un terrain pour éviter des attentats.
Bien, imaginez que Paris, en l'espace de quelques mois, soit l'objet d'attentats meurtriers incessants, et que en face, les forces de l'ordre qui sont là pour le maintien de l'ordre s'avèrent incapables de remplir leur fonction. Je rappelle que, toutes choses étant égales par ailleurs, il y avait 3 fois moins de forces de l'ordre en Algérie qu'en métropole. Il y avait proportionnellement plus de policiers et de gendarmes en Corrèze qu'il n'y en avait en Kabylie. Donc ça explique quand même. Et ce qui s'est produit, c'est que le résident général Robert Lacoste, le ministre résident, a baissé les bras, s'est rendu compte que la situation s'aggravait de jour en jour, il ne pouvait plus y faire face, et bien il a appelé les paras en désespoir de cause. Et les paras, l'attitude censée aurait été de dire non, désormais, on n'est pas fait pour ça, ce qui était vrai, ils ont dit, écoutez, nous on est là pour servir, on va essayer de faire ce qu'on peut. Voilà. Mais j'insiste, on pourrait en parler pendant des heures, je veux simplement rappeler quelque chose de très surprenant. C'est qu'on a là un cas de terrorisme caractérisé qui a fait l'objet d'une des premières thèses consacrées au terrorisme de Martha Crenshaw, qui a ouvert d'ailleurs aux États-Unis, puis ensuite dans le reste des pays occidentaux, le champ des études des terrorism studies, qu'on les appelle. Or, cette thèse a très peu fait l'objet d'études des historiens spécialistes de la guerre d'Algérie. Or, elle explique très bien la tactique et la stratégie terroriste. Et là, on comprend beaucoup mieux cette bataille pour Alger quand on connaît de part et d'autre quelles étaient les intentions.
Et comment est-ce que les paras agissent alors dans le... Parce qu'effectivement, vous l'avez bien dit, leur rôle n'est pas de faire de la police. On a là des militaires qui se retrouvent à faire une action de police, à faire du renseignement et à quadriller un territoire pour éviter des attentats, ce qui est tout à fait nouveau.
On leur a demandé en urgence de faire arrêter d'une part les attentats meurtriers, d'autre part une grève générale qui s'annonçait juste à la veille d'une réunion de l'ONU. Et il est évident que l'objectif du FLN était de montrer à travers une grève générale qui aurait été très suivie par la population qu'il était maître d'Alger. Et par conséquent, internationaliser la question et lier les mains du gouvernement français. C'était l'objectif. Alors, dans les premières semaines, ça a été des tâtonnements qui n'ont pas toujours été très, très appréciés, c'est le moins qu'on puisse dire, mais la parade a été trouvée assez vite par 3 hommes qui, à des titres différents, ont décidé d'encadrer la ville plutôt que de réprimer. Le colonel Godard, le lieutenant-colonel Trinquier et le capitaine Léger, c'est-à-dire qui ont, je résume très très vite, d'une part découper la ville, faire de l'îlotage, c'est-à-dire le contrôle maison par maison, c'est quelque chose qui a été ensuite repris par exemple par les Américains en Afghanistan et qui a donné parfois des résultats intéressants. Et puis, pour Léger, le contrôle par l'infiltration et l'intoxication. Et ce qui a donné des résultats tout à fait favorables. À la fin de l'année 1957, le terrorisme à Alger était jugulé. Et même s'il y aura des attentats, il n'y aura plus du tout la panique qui était en train de s'installer dans Alger. Juste un petit détail quand même, hein, dont on oublie aussi l'importance. Si Lacoste a fait appel aux paras dans la panique, hein, on peut le dire, c'est aussi parce qu'il craignait le contre-terrorisme qui commençait et par conséquent, une véritable guerre à l'intérieur de la ville et à l'intérieur du pays qui devenait incontrôlable.
Alors, dans votre ouvrage sur les parachutistes en Algérie, vous évoquez également l'action à Suez. Alors, ce n'est pas en Algérie, bien évidemment, mais beaucoup de paras d'Algérie y ont participé à ce saut sur Suez. Là aussi, une opération alors qui est techniquement réussie, militairement réussie, mais comme on le sait, pour des raisons politiques et internationales, les Français et les Anglais ont dû se retirer de Suez. C'est une opération qui a été menée extrêmement rapidement quand on regarde, et c'est là aussi l'intérêt des paras, c'est la capacité à projeter des troupes loin et à les projeter très rapidement sur un territoire donné qui en plus était extrêmement restreint comme territoire.
Oui, alors je reviendrai, ce ne sont pas tous les paras, ce ne sont très peu de paras, c'est le deuxième RPC qui deviendra le deuxième RPIMA qui se trouve maintenant basé à La Réunion. C'est un régiment d'appelé, commandé par le colonel Château-Jobert, et c'est là justement où on voit cette capacité du monde parachutiste à former en peu de temps d'excellents soldats. On prend un appelé qui n'a jamais sauté en parachute, ou qui n'a jamais tenu une arme, et quelques mois plus tard, on lui fait faire un saut opérationnel extrêmement difficile, où il n'y a eu qu'un seul refus de saut sur 1400 soldats, quand même, et qui a réussi parfaitement sa mission avec très peu de pertes. Donc ça a été une réussite tactique absolument remarquable. Les autres régiments, le 3 par exemple, qui était aussi mobilisé mais qui s'est contenté de rester en attente dans l'île de Malte, l'île de Chypre, pardon, n'ont pas participé au saut. Et la même chose s'est reproduite pour Bizerte, mais c'est une autre histoire. Et Bizerte, c'est également le deuxième RPC, RPIMA, qui est intervenu. Donc on a là la preuve d'une efficacité militaire qui a été d'ailleurs très bien perçue par les adversaires.
Le but de Suez, là, c'est de tenir le canal, de chasser les Égyptiens et de prendre possession des lieux.
Oula, là aussi, ça demanderait des développements considérables. Et il y avait d'une part le fait que le canal avait été fermé et les propriétaires du canal expropriés quelques années avant la fin de leur contrat de façon tout à fait unilatérale et que les Britanniques, premiers lésés, puis ensuite les Français, qui étaient également partie prenante, dès l'été avaient commencé à annoncer qu'ils allaient réagir. Bon. Ensuite, ça a traîné, la situation militaire, politique britannique n'était pas brillante. Finalement, on se décide, mais j'écourte les développements. Le résultat, c'était qu'un seul a gagné, Israël. Tous les autres ont perdu. Mais Israël a parfaitement obtenu ce qu'il souhaitait, avec l'aide considérable de la France, d'ailleurs. Quant aux raisons pour lesquelles Suez a été un échec politique, la version que donnait le général Elie, qui était le SEMA, c'est que l'armée, l'affaire a dû être abandonnée parce que le ministre Eden, ministre britannique, était mis en minorité. Il ne pouvait plus gouverner, il était au sein de son propre parti, complètement pieds et poings liés, et ne pouvait par conséquent plus prendre de décision. Donc l'affaire a été... Alors, il y a eu évidemment les ultimatums de l'URSS et des États-Unis qui ont montré une sorte de tournant dans la guerre froide. les deux principaux adversaires s'entendaient contre deux membres de l'OTAN. Ça paraissait un peu bizarre. Mais la raison principale, ça a été quand même l'impuissance britannique, semble-t-il. Mais pour les communistes, ça a été à la fois une victoire, montrer qu'ils étaient capables d'un exploit, et puis une grosse frustration, bien entendu.
Alors, dans votre ouvrage, vous consacrez un chapitre à la culture parrain, puisque être parrain, c'est aussi avoir des chants, avoir une histoire, des traditions. Il y a des choses là qui sont extrêmement importantes et puis qui marquent évidemment les hommes au-delà des générations et qui permet aussi aux parrains retraités de se sentir proches des parrains en activité. Quelles sont les principales traditions des parachutistes? Puisque vous l'avez dit en début d'émission, ce sont des unités dans différentes unités, c'est pas une arme en tant que telle. Donc, est-ce qu'il y a des éléments en commun dans tous ces parachutistes? Et comment ces éléments culturels, historiques, ont été choisis?
Ils n'ont pas été... si vous voulez, La sélection s'est faite au fil des ans. Le hasard a joué un grand rôle. Et puis, c'est très très empirique, très pragmatique tout cela. L'unité, c'est un peu Saint-Michel, la Saint-Michel, qui est le patron des paras, mais qui n'élimine absolument pas les autres parachutistes. Cavalier parachutiste, par exemple, continue de célébrer Saint-Georges. Les artilleurs parachutistes continuent de célébrer Sainte-Barbe. Les légionnaires, évidemment, célèbrent toujours Cameron, qui est peut-être resté quand même pour eux plus important encore que Saint-Michel. Et puis là-dessus, c'est greffé. J'ai accordé quand même beaucoup d'importance à un héritage qu'on oublie. C'est celui du général de Lattre. Le général de Lattre est le premier dès 1942. Lorsqu'il essaye de remonter une armée, l'armée d'armistice, puis ensuite évidemment à la libération avec ses camps en plein air, il a essayé de donner aux militaires en général une identité à travers le chant, à travers des démonstrations, à travers des défilés, à travers tout cet apparat qui surprend un peu, mais qui est effectivement une façon de créer un esprit de corps. Et ce sont les parachutistes qui ont le mieux compris la leçon du général de Lattre, et en particulier, le meilleur élève, c'est le colonel Bijard, qui, en Algérie, va jouer un très très grand rôle dans la fixation des coutumes, les chants, le costume, l'esthétique, voire même la mode parachutiste. La mode du petit béret au lieu de la grande tarte, etc. Tout cela est assez amusant, mais ça a une efficacité. C'est-à-dire que ce ne sont pas des fanfreluches, ce ne sont pas des futilités. Ces formes extérieures d'identité renforcent la solidarité au combat et l'identité guerrière.
Alors, on va évoquer justement le béret, parce que ça fait l'objet d'âpres discussions. Il y a plusieurs couleurs pour le béret du parachutiste, selon les régiments auxquels ils appartiennent. Vous mentionnez donc le béret rouge, qui est l'héritier des troupes britanniques. Il y a le béret bleu, qui a été choisi notamment par les régiments métropolitains. Et puis le béret vert, qui est plutôt de tradition légionnaire. Dans votre ouvrage, vous citez donc un document qui est un dialogue où est expliqué comment le béret vert est choisi. Et donc il y a un des militaires qui parle et qui essaye d'expliquer pourquoi il faut prendre le béret vert. Et ils disent qu'ils ont reçu de chez Hermès des prototypes de béret et que finalement ça leur paraît bien leur convenir et qu'ils vont prendre ceci. Et puis il y a une discussion sur la couleur et que finalement ils optent pour un vert qui est un peu moins marqué que le vert Légion, mais qui est un peu plus pâle. Voilà, donc on voit que cette couleur, la couleur est aussi importante pour l'identification et pour savoir à quel régiment les parachutistes appartiennent.
Alors, je rectifie juste quelques petits quelques broutilles, mais il est évident que cette histoire d'identité manie beaucoup les broutilles. Les broutilles, c'est que ce n'est pas Hermès qui a fourni les bérets des légionnaires, mais une boutique, un chapelier qui était à côté de chez Hermès, dans la même rue qu'Hermès, rue du Faubourg Saint-Honoré. Et c'est Raymond Huel qui a défendu absolument, au lieu du képi, que les légionnaires parachutistes continuent de porter, bien sûr, défendu, les parachutistes, on doit porter un béret, et on va porter un béret vert, comme les commandos marines, mais un peu plus clair que les commandos marines, qui est le vert de la Légion. Et c'est vrai que chaque troupe parachutiste développe ce qu'on appelle ce narcissisme des petites différences. Alors de temps en temps, comme en Algérie, comme en Indochine, le général Delattre a essayé d'imposer le béret rouge pour tout le monde. Bon, les légionnaires ont toujours gardé leur béret vert. Très vite, on est revenu à de nouveaux bérets. En Algérie, chacun repart de son côté avec son béret jusqu'en fin 58, où on impose le béret rouge à tout le monde. À ce moment-là, les colos, qui sont vexés de voir les métros utiliser leurs couleurs, vont rajouter un macaron différent avec une encre de marine. Bref, c'est encore aujourd'hui, le béret rouge ou le béret amarante font l'objet de disputes. C'est normal. Et c'est très sain.
Et puis, il y a également tout ce qui est chant, chant de régiment, là aussi. Il y a la prière du parachutiste, qui est peut-être un des plus connus, qui est d'ailleurs une prière très émouvante. Et puis, il y a d'autres chants également qui sont utilisés et qui, là aussi, sont... Certains chants viennent de l'étranger. Vous citez notamment les oies sauvages. Et puis, d'autres chants ont été créés lors de la guerre d'Algérie ou ensuite... lors des autres guerres auxquelles les paras ont pu être confrontés.
Oui. Faisons un sort à la prière des parachutistes. La prière des parachutistes, la prière du parachutiste a été écrite par Zinelde alors qu'il n'était pas encore du tout parachutiste. C'est une prière d'un homme qui est tourmenté par des questions mystiques. C'est une prière qui n'est pas guerrière au départ. Hein. C'est les tourments du chrétien qu'elle traduit, mais qui ensuite ont été repris. Pour des raisons de diffusion, les paroles ont été corrigées dans un sens qui les a un peu trahies. On a rajouté dessus une musique qui est celle de la marche consulaire, la marche de Marengo, qui ne va pas forcément bien, et puis qui surtout, quand on la chante, provoque des couacs, parce que c'est une musique qui est faite pour un orchestre et non pas pour des voix. Et aujourd'hui, on s'oriente de plus en plus vers quelque chose qui me semble peut-être plus authentique, revenir au texte de la prière qui est dite, récitée par un jeune lieutenant, comme le récit de Cameron ou le récit de Bazeille, de la bataille de Bazeille pour les troupes coloniales. Voilà, donc on pourrait assister dans les prochaines années à la disparition de la prière parachutiste comme un chant et qui soit prononcé uniquement comme une prière cette fois, avec plus encore d'émotion probablement. Quant aux autres chansons, bien l'influence des légionnaires est évidente. Les légionnaires en Indochine sont majoritairement allemands, ils le sont en grande partie encore pendant la guerre d'Algérie et dans l'armée allemande, on chante, c'est très important, on chante bien. Pourquoi j'ai tenu dans mon ouvrage à avoir une photographie assez rare d'ailleurs du 3e BEP, qui deviendra peu de temps après 3e REP et qui fusionnera dans le 2e REP, où on voit ces légionnaires au repos en train de jouer de la musique. Les légionnaires sont musiciens, mais des chants parachutistes ont été empruntés à d'autres registres, par exemple à la guerre d'Espagne, aux résistants dans les camps de concentration allemands. On a là une réutilisation, comme toute la chanson populaire. La chanson populaire récupère des chants qui lui plaisent et colle dessus des paroles qui lui conviennent.
Et puis, il y a aussi la question du pas. Alors, c'est important, notamment quand on les voit défiler, et principalement le 14 juillet. C'est, là aussi, le pas est hérité de la Légion. Donc, on voit aussi quand même que la Légion a joué un rôle important dans la diffusion de culture du para.
Pas vraiment. Disons que, au départ, les parachutistes appartiennent à l'infanterie et ont donc un pas intermédiaire. Vous avez les plus rapides qui sont les chasseurs alpins, qui vont vite, ensuite l'infanterie, et puis les légionnaires qui ont pas très lent. Les légionnaires ont un pas très lent, pourquoi ? Parce que il est plus impressionnant de voir une troupe d'élite défiler lentement que de la voir trottiner. Et si les parachutistes ont repris ce pas lent, c'est non pas parce qu'ils imitent les légionnaires, c'est parce qu'ils démontrent qu'ils sont une troupe d'élite, une troupe éventuellement inquiétante. Et on verra, par exemple, dans la seconde partie de la guerre d'Algérie, des commandos issus d'unités parachutistes ou commandés par des parachutistes, comme le commando Cobra, qui, lui, non seulement défile un pas lent, mais il défile les poings serrés, les bras ballants, mais les poings serrés, histoire de manifester sa combativité.
Alors tout ça, évidemment, fait partie de la culture et ô combien important aussi pour montrer auprès du grand public le rôle des paras et ce qui ne peut pas être su lorsqu'on est au combat. C'est une manière de le présenter, de créer un mythe, ce qui est aussi très important, bien évidemment. Après la guerre d'Algérie, que deviennent ces parachutistes? Alors il y a Colvézi qui est un des événements militaires importants des années 1970, mais est-ce que les paras ont encore un rôle ou la France arrêtant toute intervention extérieure, ils sont remisés pour d'autres moments?
Alors là, vous me faites intervenir sur un sujet que je n'ai pas encore publié, à savoir la deuxième partie et la fin de la guerre d'Algérie, puisqu'on a officiellement appelé la déparachutisation. C'est-à-dire que, étant donné la fin tragique de la guerre d'Algérie et la position qu'avaient pris les parachutistes à ce moment-là, pendant toutes les années 60, le parachutisme a été plutôt mal vu et l'identité parachutiste a été parfois même volontairement masquée. Pour ma part, je vais arrêter mes travaux en 1962 pour une raison très simple, c'est que à la suite d'une modification de l'application de la loi concernant les archives. Et on a le chercheur moyen, dont je fais partie, n'a plus accès aux archives. Les archives au-delà de 1934 sont soumises à dérogation, à autorisation spéciale, et par conséquent, moi, si je ne peux plus travailler avec des archives, ben je ne fais plus cette histoire-là. Je vais revenir à ma spécialité latino-américaine et je préparerai un livre sur Hernán Cortés au XVIe siècle. Ça ne pose plus de problème.
Il n'y a pas de problème d'ouverture d'archives, oui. Alors justement, comment vous qui êtes une spécialiste de l'histoire d'Amérique latine, vous êtes arrivée au para, que ce soit en Indochine ou en Algérie?
Bien, tout à fait par hasard et par amitié. C'est-à-dire que je suis partie en retraite en 2012-2013, et à ce moment-là, bon, il est évident qu'étant retraité, je ne pouvais plus bénéficier de mission pour aller travailler en Amérique latine, d'autant qu'après avoir travaillé 40 ans sur l'Amérique latine, on a envie de changer. Et j'ai fait connaissance à ce moment-là, tout à fait parce que je réside dans le sud-ouest, qui est une région parachutiste, j'ai fait connaissance de parachutistes, et notamment d'anciens, qui avait participé à la guerre d'Indochine et qui reconnaissait sur le tard qu'ils avaient passé une vie de guerre sans comprendre très bien ce qu'ils avaient fait. Et c'est une des choses qu'on apprend quand on étudie l'histoire militaire, ce que Clausewitz appelait le brouillard de la guerre ou la friction. Quand on est guerrier, quand on est en train d'agir dans un acte de guerre, on ne voit qu'une toute petite partie de la réalité. Une petite bulle autour de soi, au niveau de la section au maximum, et le reste, on ne comprend pas. Alors, je me suis amusée, je dis à cet ami qui s'appelle René Leroy, auquel j'ai dédié mes travaux, je dis, écoute René, je vais aller aux archives, et puis je vais te dire ce que tu as fait. Et puis voilà, c'est venu comme ça, je me suis intéressée au sujet, et j'ai décidé d'écrire cette histoire des parachutistes.
Eh bien, merci beaucoup. Donc, je mentionne le premier tome, Parachutiste en Algérie 1954-1958, qui est paru chez Vendémiaire, et donc le deuxième tome, qui est en cours d'écriture et que nous ne manquerons pas de mentionner lorsque celui-ci paraîtra. Merci en tout cas pour ce travail qui nous permet de mieux comprendre le fonctionnement des parachutistes, et puis tous ceux qui voudront mieux connaître le sujet et l'approfondir pourront aller voir votre ouvrage qui est imposant, il y a énormément de références, évidemment tout est sourcé, beaucoup d'éléments d'archives, et qui passionnera donc tous ceux qui aiment l'histoire militaire et qui aiment parmi celles-ci la question des parachutistes. Merci pour votre fidélité à nos émissions et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.